Chapitre 9. Le lendemain, il tombait une de ces pluies tièdes et continues qui semblent destinées à ranimer les fleurs. Mais à Manchester, où les fleurs n'existent pas, la pluie n'a pour effet que de rendre tout plus sombre et d'attrister l'esprit. Les rues étaient boueuses, les murailles plus grises, et les passants crottés jusqu'à l'échine et mouillés jusqu'aux os. Quiconque avait pu se dispenser de sortir était resté chez soi, et rien ne troublait le silence de la petite cour où Blairton demeurait. Il faisait déjà nuit. Mary venait, en rentrant dans l'atelier, de changer de robe et de chaussures. Elle n'était pas encore assise lorsqu'elle entendit tâtonner à la porte comme si quelqu'un eût cherché la serrure. Elle prêta l'oreille, et le bruit ayant continué, elle finit par ouvrir. C'était son père. Il entra sans répondre au joyeux accueil de sa fille, et vint s'asseoir près de la cheminée, sans regarder autour de lui, ni faire la moindre attention à ses habits qui ruisselaient. Mary courut prendre les vêtements qu'il portait tous les jours, et chercha dans le buffet les quelques restes qu'elle put trouver, faisant en même temps tous ses efforts pour égayer le voyageur, dont le morne accablement la gagnait malgré elle, sans qu'elle pût expliquer la cause de la profonde tristesse où il restait plongé. Car à l'atelier de Miss Simmons, où elle passait tout son temps, elle n'entendait parler que de modes nouvelles, de bals, de grands dîners, d'anecdotes plus ou moins scandaleuses dont chuchotaient ses compagnes, et ne savait pas que le Parlement avait refusé d'écouter la députation des ouvriers, refusé d'entendre ces hommes qui venaient lui crier que la famine et la mort s'abattaient sur une population tout entière, et marquaient leur passage en semant les tombes comme autant de bornes funéraires, au milieu d'un pays dont le Parlement régissait l'existence et gouvernait la destinée. La jeune fille s'assit au pied de son père comme elle le faisait autrefois quand elle était enfant, lui prit une main qu'elle pressa dans les siennes, et le regardant en silence, partagea sa douleur sans oser l'interroger. « Mary, dit-il enfin, c'est à Dieu que maintenant il faut nous adresser, car l'homme refuse de nous entendre. Aujourd'hui même nos pleurs sont des larmes de sang. » Elle comprit aussitôt le désespoir de son père. Et ne pouvant rien trouver qui pût en adoucir l'amertume, elle resta silencieuse, immobile dans l'attitude qu'elle avait prise, et l'on n'entendit plus que le bruit de la vieille horloge, et celui qu'au dehors faisait la pluie en tombant. Mais, quand une demi-heure environ se fut écoulée ainsi, ne pouvant supporter cette situation douloureuse et comprenant la nécessité d'arracher son père à la stupeur qui l'envahissait de plus en plus, Mary fit un violent effort sur elle-même, et d'une voix tremblante. « Père, lui dit-elle, savez-vous que George Wilson est mort ?» Une pression convulsive de la main qu'elle tenait lui fit comprendre que Blairton avait entendu ces paroles. « Hier, continua-t-elle, on l'a rapporté sans vie de la chaussée d'Oxford, où il était tombé tout à coup. C'est bien triste, n'est-ce pas ?» Elle leva sur son père ses grands yeux noyés de larmes. Le visage de Blairton conservait sa morne impassibilité. « Heureux sont les morts » murmura-t-il d'une voix sourde. Et Mary, sous prétexte d'aller dire à Marguerite qu'il était inutile qu'elle se dérangeât et vint coucher avec elle, courut bien vite chez Job Legh pour le prier, au contraire, de venir avec sa petite fille, afin de détourner Blairton de ses sombres pensées. Marguerite chantait, et de sa voix sympathique faisait tomber ses paroles dans le silence de la nuit. Consolez-vous, consolez-vous, a dit le Seigneur à son peuple. Mary s'arrêta pour écouter ces accents angéliques, dont la puissance ranimait son courage. Elle entra quand la voix cessa de se faire entendre, et dit le motif de sa visite à ses amis, qui se levèrent aussitôt pour la suivre. Ne t'inquiète pas, ma fille, lui dit Job. La fatigue est pour beaucoup dans son accablement. Demain il ira mieux et retrouvera son courage. » On ne saurait définir le pouvoir que certains regards, certaines paroles ont sur le cœur brisé, que le désespoir oppresse. Et une heure environ après l'arrivée de Job Legh et de Marguerite, Blairton causait librement avec eux, bien que sa conversation roulât naturellement sur son voyage et sur la perte de ses espérances. « Londres est bien beau, » leur disait-il, « et vous pouvez m'en croire. Figurez-vous, qu'on y voit toutes sortes de beaux mondes, comme jamais je n'aurais pensé qu'il y en eût sur la terre, excepté dans les livres. N'importe, c'est leur tour ici-bas, qu'ils en profitent en attendant qu'on les tourmente là-haut. Cette parole de Lazare, dont l'allusion revient sans cesse aux lèvres du déshérité, se présente-t-elle aussi souvent à l'esprit du riche qu'à la pensée du pauvre?
Oh, dites-nous tout ce que vous savez de Londres, cher père,
demanda Mary, qui avait repris sa place auprès de Burton.
Et comment pourrais-je vous en parler? J'en ai pas vu le quart, ni le dixième. C'est gros, 6 fois comme Manchester. Il s'y trouve 1/6 de grands palais, 3/6 de maisons ordinaires, et le reste se compose de trous infâmes, remplis d'iniquités abominables, comme on n'en voit pas à Manchester. Je suis heureux de le dire.
Avez-vous vu la reine au moins?
Je ne crois pas. Bien qu'un jour il m'ait semblé la voir, et plus de 20 fois encore. C'était le jour qu'on nous avait désigné pour nous rendre au Parlement. Nous devions nous retrouver pour la plupart dans un café où l'on se montrait fort obligeant pour nous, et où l'on nous servit un déjeuner tel que la reine elle-même aurait pu s'y asseoir. Je suppose qu'on voulait nous remonter, comme si le courage nous manquait. Pas moins, nous avions des rognons, des saucisses, du jambon, du bœuf frit dans la poêle avec des oignons, un vrai dîner plutôt qu'un déjeuner. Malgré cela, faut tout dire. Beaucoup de nous autres, ainsi que je l'ai bien vu, n'ont guère touché à ces bonnes choses. Ça s'arrêtait dans leur gosier, voyez-vous, en pensant que chez eux, femmes et enfants n'avaient rien à manger. Voilà donc le déjeuner fini, on se met en procession 2 par 2, la pétition, longue de plusieurs mètres, portée par les délégués qui marchaient en avant. C'était quelque chose, allez, que tous ces hommes à l'air grave, comme vous pouvez penser, quelque chose de sérieux qu'une file pareille, de gens pâles et tristes, chargés de douleurs de tout un monde, vrais squelettes qu'ils étaient tous.
Vous pouvez bien vous-même vous vanter d'être maigre.
Bah, j'étais gras et rose auprès de beaucoup d'entre eux. Nous partons donc, et nous traversons un tas de rues qui ressemblaient toutes à Deansgate. Il y avait tant de carrosses, de cabs, de voitures de toutes sortes, qu'on marchait pas à pas sans pouvoir avancer. Je croyais à chaque instant qu'on allait en sortir une fois que ce serait passé. Mais bah, plus la rue devenait large, plus elle était remplie. Si bien que nous voilà tous bloqués dans Oxford Street. Nous démarrons enfin. Eh hey, bon Dieu, quelle grande rue! Je n'en pouvais pas revenir. Ce n'est pas qu'ils s'y connaissent à bâtir les maisons. Et je crois qu'un bon entrepreneur, qui saurait son métier, ferait une fameuse fortune en allant s'y établir. Car voyez-vous, la plupart des bâtisses qu'on trouve à Londres n'ont jamais été faites pour qu'un homme puisse y vivre. Il y en a qui ont de gros piliers par devant, sans doute parce qu'elles tomberaient si on ne les soutenait pas. D'autres qui ont des femmes et des hommes en pierre, dont les corps n'ont pas d'habits, probablement pour servir d'enseigne et de gros tailleurs. J'étais comme un enfant, pas moins. À force de regarder autour de moi, j'en oubliais notre message. Pendant ce temps-là, qu'on ne marchait guère, l'heure du dîner arrivait. Nous étions harassés et pleins de poussière lorsque nous entrons dans une rue plus large que toutes les autres et qui mène droit au palais. C'est là que j'ai bien cru voir la reine.
« Vous connaissez les corbillards avec leurs plumets blancs ?»
demanda-t-il à Job, qui fit un signe affirmatif.
« Eh bien, les pompes funèbres vont joliment à Londres. Chaque lady, qui était dans son carrosse, leur avait loué des plumes pour se mettre sur la tête, où elle remuait gentiment à chaque mouvement de la dame. C'était réception chez la reine, à ce qu'on disait près de nous, et les équipages ne manquaient pas. Il y avait dedans des gentlemen, habillés comme au cirque, et ceux qui n'avaient pas pu tenir à l'intérieur étaient montés par derrière. Ils avaient à la main de beaux bouquets pour sentir bon, et de grandes cannes pour éloigner les passants qui auraient pu salir leurs bas de soie. Je m'étonnais de les voir là, grimper derrière ces voitures comme de petits polissons, plutôt que de louer un cab où ils auraient été dedans. Mais j'ai pensé qu'ils ne voulaient pas quitter leur femme. Quant au cocher, c'était de bons gros petits hommes, bien trapus, avec des perruques comme autrefois. Et tout ça ne finissait pas, car les chevaux étaient trop gras pour courir. C'est pas ceux-là qui ont souffert de la faim, ça se voyait du reste à leurs poils. Chaque fois que nous voulions avancer, la police nous repoussait en arrière, que même un agent m'a touché de son bâton, ce qui a fait rire les cochers pendant que des officiers qui étaient là ont mis leur lorgnon dans leur œil où ça se tenait tout seul, comme font les charlatans. Si bien que j'ai demandé à l'agent pourquoi il me frappait. « Vous effrayez les chevaux, » qu'il me dit en zézayant, car ces gens de Londres ont tous la langue si mal pendue qu'ils ne peuvent pas prononcer les S et les I proprement. Et que c'est notre affaire, ajouta-t-il, qu'on ne vexe pas les gentlemen et les ladies qui s'en vont à la cour. Et pourquoi que c'est nous qui serions vexés, que je lui demande à mon tour, quand nous allons décemment à nos affaires, où il s'agit pour nous de vie ou de mort, et de tant d'autres qui crèvent de faim chez eux, au fond du Lancashire. Une affaire de plus de conséquences aux yeux de Dieu. Comptez-y. Que toutes les réceptions de belles dames et gentlemen qui vous occupent si fort. J'aurais mieux fait de me taire, car il n'a su qu'en rire.
Burton s'arrêta, et son visage redevint sombre. Après un instant de silence, voyant qu'il se taisait toujours,
« Et la fin de votre histoire ?» lui demanda Jobley. « Votre arrivée au Parlement, et ce qu'on vous y a dit ?»«
Avec votre permission, voisin, » répondit John d'une voix profondément altérée, « j'aime mieux n'en point parler. Ce n'est pas une de ces choses qui se racontent, et qu'on peut dire comme les nouvelles de Londres. Aussi longtemps que je vivrai, le souvenir pèsera sur mon cœur, et je ne cesserai de maudire ces hommes qui ont refusé de nous entendre. Mais jamais je n'en parlerai. Jamais. Jamais. »
Un morne silence régna de nouveau pendant quelques minutes, et le vieux fileur, voulant une seconde fois tirer Burton de sa rêverie amère, prit la parole à son tour.
« Sais-tu, dit-il à Mary, que moi aussi j'ai vu Londres. »
« Non, répondit-elle avec surprise, et en regardant Job avec un redoublement de respectueux intérêt.
« J'y suis allé cependant, et Peg aussi, ma fille. Mais, à l'âge qu'elle avait, pauvre petite, elle ne s'en souvient guère. Vous saurez donc que je n'avais qu'un enfant, c'était la mère de Marguerite, et je l'aimais plus qu'un peu. Un jour, elle vient se mettre derrière moi, pour que je ne voie pas sa rougeur, et me prenant par les joues, avec ses petites manières caressantes, elle me dit que Frank Jennings, un menuisier qui logeait près de chez nous, serait bien heureux, ainsi qu'elle, si tous deux étaient mariés ensemble. Je n'avais pas la force de dire non, mais j'avais le cœur bien gros en pensant qu'elle partirait d'avec moi pour aller chez un autre. Je ne lui en montrais rien pour ne pas l'attrister, mais je me rappelais l'époque où j'étais jeune aussi. J'avais aimé sa mère. Et nous étions partis, quittant chacun nos parents pour vivre dans notre ménage. C'était mon tour, et je devais me séparer d'elle, bien qu'elle fût la lumière de mes yeux.
« Mais, interrompit Mary, puisque le jeune homme demeurait près de chez vous.
« Tu as raison. C'était notre voisin ainsi que le père Jennings. Mais l'ouvrage n'allait pas à Manchester, et l'oncle de Frank lui écrivit pour lui dire qu'il en trouverait à Londres, où l'on payait bien mieux. C'est alors qu'il partit et qu'il emmena sa femme. Mon cœur saigne quand j'y pense. Ils allèrent donc à Londres, et je restai pauvre père, tristement derrière eux. Tu connais leurs deux lettres, Marguerite?
Oui, grand-père.
Ce sont les deux seules qu'elle m'ait jamais écrites. Pauvre fille. Ils étaient bien heureux, et Franck avait de l'ouvrage. La dernière de ces lettres finissait par ces mots. Adieu, grand-pa. Et je compris qu'avant peu il y aurait de la famille. Alors, sans rien dire, je mis de côté quelque argent pour m'en aller chez eux, passer les fêtes de la Pentecôte, et voir le petit Poupon. Mais voilà qu'au moment où je pensais à partir, le père Jennings entre chez moi, d'un air triste, et me dit que Frank et sa femme ont pris la fièvre. C'était la personne où logeaient nos enfants, qui lui écrivait pour qu'on vînt les soigner. Vous pensez que le vieux Jennings et moi, nous prenons la voiture et nous partons pour Londres. Mais si vite que nous fussions partis, c'était encore trop tard. Je le vis tout de suite à la figure de l'hôtesse, pauvre chère femme, dont les yeux étaient rouges à force d'avoir pleuré. « Où sont-ils ? » demandons-nous d'abord. On nous mène dans une chambre où, sur le lit, caché par un drap blanc, étaient les deux cadavres. Jennings se mit à crier comme une femme, et pourtant il avait d'autres enfants. Mais moi, je n'avais plus personne à aimer sur la terre. Je ne me souviens pas de ce que je fis. Cependant, j'étais calme en dehors, quoique mon cœur agonisât en dedans. Jennings ne put pas rester près des morts, et me laissa tout seul dans la chambre, ce qui m'allait bien mieux. Quand ce fut le soir, l'hôtesse vint me prendre et me fit monter un escalier. Puis elle ouvrit une porte et je me trouvai dans une autre petite pièce où Jennings dormait sur un sofa et où le thé nous attendait, car cette femme avait bon cœur. Elle me dit alors de venir auprès du feu, et soulevant un châle qui couvrait un panier, elle me montra une petite fille endormie, qui n'avait pas 8 jours. Mon cœur sauta dans ma poitrine, et les pleurs me gagnèrent. « Est-ce à elle ?» que je demande. Je le savais bien pourtant. « Oui, » me répond l'hôtesse. Elle était mieux quand l'enfant vint au monde, et peut-être qu'elle aurait pu guérir. Mais quand le mari fut mort, la femme le suivit de près. Je regardais la pauvre petite créature, qui me semblait comme un ange envoyé par sa mère, pour me rendre le courage et me consoler un peu. J'étais jaloux de Jennings, en pensant qu'il était son grand-père tout aussi bien que moi-même, et je tremblais qu'il ne vint à réclamer son droit. Mais il avait d'autres enfants, et ne demandait pas mieux que de me laisser le poupon. Quand l'enterrement fut fini par un beau jour de mai, nous reprîmes la route de Manchester, en emportant l'enfant. Nous avions mis tant d'argent aux funérailles pour les avoir décentes qu'il nous en restait peu, et nous étions à pied pour juste à Bromadjem. Au bout d'un mille ou deux, je me retournai pour voir Londres et pour dire adieu à cette grande ville où j'avais laissé ma fille qui dormait au cimetière. Elle est dans le ciel. C'était à moi de l'y précéder. Mais à la fin, si Dieu le permet, j'irai la rejoindre. Seulement, elle est partie trop longtemps avant moi. Je ne vous dirai pas comment nous sommes revenus, portant l'enfant dans nos bras et ne sachant pas nous y prendre pour la tenir et pour la faire manger, pauvre ange. Elle avait beau pleurer, pour appeler sa maman, rien ne venait auprès d'elle que ses deux vieux grands-pères, plus maladroits l'un que l'autre. Le soir, à Brumadjem, la servante de l'auberge lui donna de la bouillie, ce qui la calma un peu. Mais jusqu'au lendemain, vous jugez quelle souffrance. Nous avions un morceau de pain dont elle suçait la croûte, et Jennings la secouait tant pour l'empêcher de pleurer qu'elle n'en criait que plus fort. Mais tout prend fin dans ce monde. Vers 6 heures du matin, nous marchions depuis longtemps sans rencontrer d'auberge. Nous voyons un cottage et la maîtresse sur la porte. « Bonne femme, que je lui dis, si vous pouviez nous donner quelque chose à manger, surtout pour cet enfant, en vous paierez votre peine, et moi je prierai pour vous jusqu'à mon dernier jour. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà le poêlon sur le feu et le fromage sur la table. Puis elle nous prend l'enfant et lui donne la béquée en lui parlant tendrement, comme aurait fait sa mère. Et ce n'est pas tout, elle nous la déshabille, et comme le paquet du pauvre ange était avec le nôtre dans la carriole du messager où nous l'avions mis, en vieille bête que nous étions, la bonne femme tira une clé de son fichu, va ouvrir un tiroir, et je vois là de petits habits d'enfant noués, en paquet avec des rubans noirs et parfumés de lavande, et à côté, un petit râteau cassé, puis un petit fouet. Et alors je vis clair dans le cœur de cette brave femme. Elle prit ce qu'il fallait pour habiller l'enfant, referma le tiroir et en ôta la clé, juste comme son mari arrivait dans la chambre. Un grand diable d'homme, aussi rude que grognon, qui, sans nous saluer autrement que par un petit signe de tête, s'en va, les deux mains dans ses poches, regardait à la porte en sifflant dans ses dents, puis se retournant tout à coup avec un air furieux. « Ah ça !» dit-il à sa femme, « probablement que je déjeunerai ce matin. » Elle me rendit l'enfant, sans rien dire après l'avoir embrassé de tout son cœur. Je fis sonner ma bourse. Le mari dressa l'oreille. « Combien est-ce que nous devons ? » demandai-je. Elle hésita entre son bon cœur et la crainte de son homme. Puis elle me dit « Croyez-vous que 12 sous se seraient payés trop cher ?» C'était bien peu en comparaison des auberges. « C'est bien, » que je lui répondis, « mais la bouillie de l'enfant. » « Oh, pour lui, je ne prends rien, » dit-elle vivement. Son mari la regarda. Peste, quel mauvais regard! Elle alla droit vers lui, et posant la main sur le bras du bourru, elle lui dit tout bas, « Richard, c'est pour l'amour de Johnny. » Puis, se détournant de mon côté, elle étouffa un sanglot qui lui venait de la gorge, pauvre mère. pour apaiser son homme s'il venait à gronder après notre départ, je fourrais tout près du pain une autre pièce de 12 sous. Quand je fus sorti de la maison, je me retournai pour la voir. Elle essuyait ses yeux avec son tablier en servant le déjeuner à son homme. Je la reconnaîtrai dans le ciel.
« Après, » dit Marguerite.
« C'est fini, ma fille. Le soir, nous étions à Manchester. J'avais avec moi l'enfant que Jennings était content de me voir prendre, et le cher ange est resté la bénédiction de ma vieillesse. »
Mary avait posé sa tête sur les genoux de son père et s'y était endormie. Ses lèvres entr'ouvertes contrastaient par leur éclat vermeil avec la pâleur transparente de son teint. Ses longs cils noirs projetaient leurs ombres sur ses joues délicates et ses beaux cheveux aux reflets d'or lui formaient une brillante auréole. Burton la regardait avec un mélange de tendresse et d'orgueil. Il prit entre ses doigts une des boucles soyeuses qui voilait le front de la jeune fille et la déploya pour en voir la longueur. Mary s'éveilla, ouvrit de grands yeux et s'écria comme beaucoup d'autres en cas pareil.
« Mais je ne dormais pas. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. »
Son père lui-même ne put s'empêcher de sourire.
« Allons, » dit Job en riant tout à fait. « Ne te défends pas d'avoir dormi pendant qu'un vieux comme moi parlait du temps passé. Mais écoute à présent ce que je vais lire à ton père. Un petit poème écrit par un tisseur comme nous. Un garçon qui a de l'esprit, où je ne m'y connais pas, car il en faut pour tramer et tisser de pareilles phrases. »
Il mit donc ses lunettes, croisa ses jambes, toussa 2 ou 3 fois et commença la lecture des lignes suivantes dont Samuel Bamforth est l'auteur.
« Que Dieu soutienne le pauvre qui, par ce temps d'hiver, s'échappe d'une allée sombre au fond d'une cour obscure, qu'il protège la jeune fille brisée par l'abandon, pauvre agneau qu'on maudit, et qui, les mains glacées, les lèvres pâles, les yeux rougis et baissés, frissonne et tressaille au coin de la rue déserte. Elle a si froid que la neige, en tombant sur son sein demi-nu, s'y arrête et s'y gèle. Ses pieds engourdis peuvent à peine la soutenir. Elle est seule, repoussée de tous. Oh, que Dieu la protège, pauvre agneau délaissé. » Un vagissement d'enfant s'élève de ce soupirail. Approchez et regardez. Une femme est là, gisante, sur le pavé qui ruisselle, repliée sur elle-même pour abriter de son corps son pauvre enfant qui tremble. Ses vêtements en lambeaux se soulevaient par la bise. L'âpre vent du matin l'a glacée jusqu'au cœur. Un éclair brille dans son œil égaré. C'est un pain sortant du four, dont l'odeur appétissante a réveillé la faim qui dévore ses entrailles. Le pain s'éloigne. Elle pleure, pauvre mère. Ah, que Dieu te protège, faible femme qu'on oublie. Là-bas, passe un jeune homme dont les pieds nus se meurtrissent sur la pierre. Il a faim. C'est encore un enfant. Il se traîne épuisé. Il erre au hasard. Et triste, sans espoir, il s'arrête devant ces aliments qu'on étale aux boutiques. Ce qu'il veut, c'est manger. Quelle saveur auraient pour lui ces viandes que vous trouvez grossières? Il ramasse un tas d'ordures, une croûte de pain moisi, qu'il brise et qu'il dévore sans souci de la tempête qui gronde autour de lui. Que Dieu te protège, pauvre enfant, et veille sur ta jeunesse. Que Dieu soutienne le pauvre, ce spectre qu'on entrevoit dans l'ombre. C'est un vieillard qui dans la nuit chancelle et s'appuie aux murailles. Son vieux chapeau troué qu'il rabat sur ses yeux est entouré d'un crêpe. Ses vêtements sont usés, le vent qui siffle sur sa tête semble railler en passant ses cheveux blancs qu'il soulève. Sa poitrine est toute nue. Il n'a pas même de chemise. Ses yeux se voilent de larmes qu'il essuie d'un haillon pour regarder au loin s'il n'apercevra pas les amis qu'il fêta. Mais quelques-uns sont morts. Les autres ne le connaissent plus. Il est pauvre. Il est seul. Que Dieu le protège et le conduise à la tombe. Que Dieu soutienne le pauvre, en quelque lieu qu'il soit, au fond de la vallée solitaire, comme au versant des monts, car il souffre en tout lieu, et c'est partout une histoire lamentable que le récit de sa misère. Mais le monde, qui n'en prend nul souci, n'écoute pas cette douloureuse histoire,
ne connaît point cette agonie du pauvre. Il ne sait pas qu'avant le jour, un travail épuisant le réclame et le retient jusqu'à l'heure où la nature succombe et s'endort épuisée. Qu'il mange, mais qu'il n'est pas nourri. Que la neige s'amoncelle autour de sa cabane où le feu manque et dont elle clôt la porte, tandis que l'ouragan hurle son glas funèbre et vient briser ses sanglots à l'angle des vieux murs. Et ces pauvres sans nombre, qu'à la fois on oublie et l'on opprime, doivent-ils donc à jamais succomber sous la faim, la fatigue et le désespoir? Oh non, Dieu se lèvera un jour, et protégeant le pauvre de sa main puissante, renversera toutes les iniquités.
Amen, dit Burton d'une voix triste et solennelle. Mary, ajouta-t-il, peux-tu me copier cette page, du moins si Job Lane ne fait pas d'objection?
Au contraire, répondit Job, plus c'est lu, mieux ça vaut.
Mary prit le papier que lui donna le vieux fileur et copia les strophes qu'il contenait sur le verso d'un Valentin illustré de cœurs enflammés percés de flèches dont elle soupçonnait Jem d'avoir été l'auteur.